Une heure à Bamako et à Gao, 23h à Kigali. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous revenons sur la croissance économique de l'Afrique, qui, une fois encore, est en hausse, mais les gouvernements africains doivent privilégier les investissements agricoles. Nous serons au Mali pour notre dossier.
Je suis très ému. Après tout ce qu'ils ont subi, ils se sont donné la main après la guerre et ils ont construit leur pays.
Et nous serons à Gao, où les casques bleus rwandais de la MINUSMA ont célébré hier la commémoration du génocide. Une cérémonie qui a mis en avant la réconciliation et la reconstruction, des thèmes qui ont eu beaucoup d'écho au sein de la population. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir, Jacques Aristide au micro, ravi de vous retrouver pour ce dernier flash de la soirée. L'Organisation mondiale de la santé s'alarme de la propagation de l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique occidentale. Pour l'OMS, c'est l'une des épidémies qui pose le plus de défis depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans. Jusqu'ici, le bilan officiel établi pour l'ensemble des pays touchés fait état de plus de 110 morts. 157 cas ont été officiellement répertoriés en Guinée et 21 au Libéria. Les enquêtes se poursuivent au sujet des cas suspects signalés en Sierra Leone et au Mali. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, Keiji Fukuda, vice-directeur général de l'OMS, a fait savoir que la lutte pour endiguer l'épidémie pourrait s'échelonner sur les 4 prochains mois. La représentante du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, a visité la province du Sud Kivu ce mardi. Elle a eu plusieurs réunions avec les autorités et la société civile. L'essentiel de ces réunions a porté sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la lecture de cet accord par la société civile. De Bukavu, le reportage de Jolie Kamuntu.
Après une réunion avec le gouvernement provincial du Sud Kivu, Mary Robinson s'est entretenue avec la société civile du Sud Kivu, et notamment de l'implication active de la société civile dans les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue de la réunion, nous avons approché quelques acteurs de la société civile.
Nous avons parlé de mauvaise gestion des questions identitaires comme l'une des causes des conflits en RDC.
Nous avons parlé de la lutte contre l'impunité, où nous avons rappelé qu'il y avait un rapport mapping des Nations Unies sur les crimes commis entre 1993 jusqu'à 2003, que les recommandations n'avaient pas encore été en application.
Mary Robinson, elle a noté qu'aujourd'hui, il est impossible de réussir à asseoir l'accord cadre d'Addis Abeba et les autres accords signés par les chefs d'État sans impliquer la société civile. Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
En Égypte, 4 homosexuels ont été condamnés à la prison. La presse égyptienne affirme que les hommes étaient accusés de pratiques sexuelles déviantes et de s'habiller en femmes. Le verdict rendu par le tribunal égyptien n'a pas eu grand écho dans la presse locale. 3 accusés sont condamnés à 8 ans de prison et le 4e a écopé de 3 ans. Ils peuvent interjeter appel. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré ce mardi à Moscou que la Russie veut la représentation des régions du sud de l'Ukraine, largement russophones, dans des négociations multilatérales. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à Moscou de désavouer les manifestants pro-russes qu'il qualifie de séparatistes et de saboteurs. Attentat dans le sud-ouest du Pakistan. Une bombe a explosé dans un train transportant des passagers dans la province du Baloutchistan. On compte au moins 14 morts. Les autorités locales pensent que la bombe commandée à distance était cachée dans les bagages d'un passager. Un groupe rebelle, l'armée Baloutche unie, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. poursuite des pourparlers sur le nucléaire iranien. Téhéran et les puissances mondiales sont réunies à Vienne en présence des deux principaux négociateurs, le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif et la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton. C'est la troisième rencontre du genre. L'objectif est de parvenir d'ici la fin de juillet à un accord assurant le caractère pacifique du programme nucléaire de l'Iran. Les deux parties espèrent commencer la rédaction de l'accord le mois prochain. Et puis, c'est la course contre la montre dans le sud de l'océan Indien. Des chercheurs essayent de localiser des transmissions électroniques émises, croient-ils, par la boîte noire de l'avion de Malaysia Airlines, disparu il y a un mois. Ils n'ont capté aucun signal depuis dimanche. Sans d'autres signaux radio, les chercheurs australiens affirment ne pas pouvoir déployer un robot pour examiner le fond de l'océan à la recherche de l'épave. L'avion avait 239 personnes à bord.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous revenons sur l'Africa Pulse, le dernier rapport concernant l'Afrique de la Banque mondiale. Si la croissance continue à un rythme soutenu, donc de 4,7% en 2013 à 5,2% en 2014, comment peut-elle profiter plus aux populations? Élément de réponse avec Luc Christiansen, économiste à la Banque mondiale.
On pourrait aussi considérer de distribuer même directement un peu de cette ressource naturelle, des revenus de cette ressource naturelle directement à la population. C'est-à-dire on pourrait faire des transferts de cash. Ça, on a déjà expérimenté de ça en Éthiopie, en Tanzanie et surtout en Amérique latine. Une manière pour mieux distribuer les revenus, les bénéfices de la croissance des ressources qui a été commencée avec les ressources naturelles.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une trop grande dépendance de certains pays aux ressources naturelles, justement?
Certainement, il y a des possibilités pour diversifier et je crois que tout dépend comment on utilise les ressources naturelles ou les revenus des ressources naturelles. Il faut bien investir dans le futur. Et là aussi, le rapport en parle qu'on pourrait plus transférer ce capital de ressources naturelles dans d'autres capitales, des capitaux humains, des capitaux physiques, l'infrastructure, et surtout où les pauvres se trouvent, pour que ça bénéficie les pauvres plus directement. Donc, d'une façon, oui, il y a trop de dépendance. De l'autre façon, ça donne des opportunités pour diversifier. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de pays n'ont pas réussi à faire ça assez.
Quels sont les domaines où les gouvernements africains doivent investir pour assurer une croissance économique pérenne?
Surtout pour accélérer la réduction de la pauvreté, je crois qu'il reste beaucoup à faire dans l'investissement de l'agriculture. Et c'est-à-dire, ça ne veut pas dire nécessairement les subventions, mais ça peut aussi, il concerne aussi l'investissement dans l'infrastructure rurale, c'est-à-dire des routes rurales pour que les paysans peuvent vendre leurs produits, pour qu'ils puissent accéder au marché, par exemple. Il s'agit aussi des investissements dans l'irrigation. Et surtout, quand ce qui concerne l'agriculture, il s'agit de produits céréaliers, donc de produits alimentaires. C'est là aussi où les effets sur la pauvreté peuvent être encore plus grands. Quand la productivité de la production céréalière augmente, c'est là où on peut obtenir plus d'effets sur la pauvreté. Donc je crois que l'agriculture reste un secteur primordial pour accélérer la réduction de la pauvreté.
Luc Christiansen, économiste à la Banque mondiale. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 102.4 FM à Ouagadougou. Et nous sommes au Mali pour notre dossier, le Mali qui a aussi commémoré le génocide rwandais, particulièrement à Gao, où des casques bleus rwandais de la MINUSMA sont stationnés. et c'est par une marche silencieuse démarrant de leur base située sur la route de Boulgoundié, derrière le gouvernorat, qu'a commencé cette commémoration du génocide perpétré par les Tutsis rwandais en 1994. La population de Gao a participé massivement à cette commémoration, où l'accent a été mis sur la réconciliation. Reportage à Gao de notre correspondant Boubacar Touré.
Les soldats rwandais en mission de la communauté internationale et les populations de Gao ont marché sur 2 kilomètres avant d'arriver à la place des martyrs au 3e quartier en face du centre de santé de référence où les attendaient les autorités administratives et politiques de Gao. Sur les banderoles qu'ils brandissaient, on peut lire 7 avril 1994, 7 avril 2014, 20e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, plus jamais encore. Et en langue locale sorai, Irma Hongukachina, qui veut dire « pensons à reconstruire ». Fin de citation. Pour le colonel Martin Mutezentare, commandant du contingent rwandais des Nations Unies, l'objectif de cette cérémonie est tout d'abord de se rappeler, mais aussi d'inviter leurs frères maliens de Gao à aller à la réconciliation tout en restant soudés pour empêcher aux forces du mal de se frayer un chemin qui puisse conduire à la catastrophe.
Le jour du 7 avril, c'est le jour de tristesse, c'est le jour de malheur. C'est le jour là où Rwanda, nous avons connu l'obscurité et aujourd'hui nous vivons la lumière. Pour vivre la lumière, il ne faut jamais oublier l'obscurité. On est ici à Gao, au Mali, pour la mission de paix. Nous aussi, ça est débité par de telles situations qui se passent au Mali. Ce n'est que la division de la population rwandaise telle que la division de la population malienne en fonction de leur tribu, de leur origine, même voire de leur religion. C'est ça ce qui nous a animés de bien organiser la journée d'aujourd'hui à la cité de Zaskia, là où ça dit quelque chose pour les Maliens et ça dit quelque chose pour le Rwanda.
Ce fut après les témoignages d'officiers rwandais, mais aussi et surtout de Selmanou Nezertabo, excusez-moi d'écorcher son nom, commandant de la police de l'aménagement originaire du Burundi, pays voisin du Rwanda, de prendre la parole pour dire ceci.
Je suis burundais, ils ont grandi avec nous au Burundi avant de prendre la décision de retourner au pays. Nous partageons la frontière, nous partageons la culture, nous partageons aussi les problèmes, parce que si une maison du voisin brûle, il faut savoir que aussi ta maison aussi n'est pas du tout épargnée.
Le représentant de l'aménagement Francisco Osclair, au nom du secrétaire général de l'ONU, de dire que la communauté internationale est aux côtés du peuple rwandais pour la 20e commémoration de ce triste souvenir.
Laissez-moi maintenant lire le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Aujourd'hui, prend part aux côtés du peuple rwandais pour marquer ces moments solennels. Et nous rendons hommage à la bravoure et à la résilience des survivants. Les Rwandais font preuve d'une capacité d'union exemplaire. Ils nous montrent que la réconciliation est possible même après une tragédie colossale.
Le gouverneur de la région de Gao, Oumar Baba Sidibé, chef de l'exécutif, a saisi cette opportunité pour tout d'abord exprimer aux soldats rwandais toute la compassion des populations de la région qui témoignent du courage, de la détermination et de la volonté du peuple rwandais à faire avancer leur pays et à assister le peuple malien en ces moments difficiles.
Que des frères des mêmes pays se retournent les uns contre les autres pour se massacrer pendant des mois. On nous a parlé de plus de 800 000 femmes, enfants, hommes qui ont été massacrés. C'est triste, très triste. Et aujourd'hui, de façon admirable, ils sont en train de se tenir sur les deux jambes. Cela fait la fierté de l'Afrique entière. Vous avez couru jusque dans le désert malien pour nous aider, nous Maliens, à régler nos problèmes. Chers frères et sœurs rwandais, nous Maliens, nous sommes de cœur avec vous. Nous partageons votre douleur et nous vous exprimons toute notre compassion.
Au cours de la cérémonie, Sahel Plus a tendu son micro à certaines personnes sur la place des martyrs, dont M. le maire Sadou Harouna Diallo. Ils nous donnent leurs impressions.
Vraiment, je suis très ému. Je suis très ému, surtout avec l'intervention, le témoignage du commandant rwandais. Et j'ai retenu à travers son intervention des leçons qui sont vraiment valables pour le peuple malien. Après tout ce qu'ils ont subi, ils se sont donné la main après la guerre et ils ont construit leur pays. Si on se donne la main, on serre les rangs sans considération aucune. Nous allons construire aussi notre Mali et il a raison. Parce qu'un adage tamboxien dit, si tu vois que le lézard se cache dans un mur, c'est que le mur a été
fendu.
Il faut reconnaître que ce que ces Rwandais ont vécu, ça pouvait nous arriver, mais Dieu merci, on a échappé belle.
Justement, qu'est-ce qui doit être fait par les communautés pour qu'on ne puisse pas vivre de telles atrocités?
Je crois que d'abord les communautés doivent reconnaître ce qui s'est passé, surtout pardonner. Aujourd'hui, toutes les communautés réunies ici ont compris que sans la paix, il n'y a rien. Noirs et blancs, on doit vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble.
Et la population de Gao a répondu massivement pour commémorer le 20e anniversaire. Alors moi, j'en appelle aux populations de Gao et de tout le Nord Mali de se retrouver. Il faudra qu'on pardonne et qu'on revienne à la reconstruction. On a des bras valides, qu'on pardonne nos frères et qu'on reconstruit notre pays.
Monsieur le maire, oui, le temps vient d'être donné par les Rwandais. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez privilégier pour amorcer alors ce dialogue et la réconciliation tant attendue?
Moi, en tant que maire de Gao, j'ai toujours privilégié la paix, le pardon, la réconciliation.
Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut précisément entamer dès maintenant? Parce que ça fait plus d'une année que les gens attendent que...
Ce qu'il faut entamer, c'est qu'il faut que l'État accompagne les gens de bonne foi qui veulent aller sensibiliser les personnes. La population de Gao est une population qui sait pardonner. Ils attendent qu'un effort de l'État, un petit effort de l'État pour se retrouver.
Pour le commandant du contingent rwandais, le colonel Martin Mutizentare, son émotion est grande et il croit en l'avenir du Mali. Pour lui, le gouvernement malien doit faire de la bonne gouvernance sa priorité.
Nous remercions sincèrement la population de Gao et ils nous ont montré ça tous les jours quand nous passons de ça de là, pendant la patrouille, pendant de travaux communautaires, on voit que vraiment on est avec une société digne, responsable, qui a l'amour. Vraiment, nous avons confiance au peuple du Mali, nous avons confiance à la population de Gao. L'amour est là à Gao, l'amour est là au Mali. Mais seulement, il faut une bonne gouvernance.
La 20e commémoration du génocide contre les Tutsis rwandais à Gao s'est achevée par ces notes de l'artiste Saban Boubacar Touré, plus connu sous le nom de SBT, qui invite à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation des fils du pays. Gao Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la voie de l'Amérique.
Et Sahel Plus que vous écoutez donc sur la VOA et sur le 101.7 FM à Gao, sur la radio à Adar Koïma. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Dan Crafton. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Maman Sani, pionnier de la musique électronique au Niger. L'excellent label Sahel Sounds a réédité ses morceaux enregistrés dans les années 80. Maman Sani sera en concert en France les 9 et 10 avril dans le cadre du festival Sonic Protest. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Très bonne soirée et très bonne nuit à tous!